Hey, comment ça va?
Coucou, comment ça va?
Comment ça va?
Ça va et toi?
Comment ça va?
Ça va.
Hey, comment ça va?
Ça va et toi?
Comment ça va?
Comment ça va à la selle? À la fin du Moyen Âge, les médecins avaient l'habitude de poser cette question pour connaître l'état de santé de leurs patients. La phrase « comment ça va » vient donc en réalité de « comment ça va à la selle ». 600 ans après, je me suis reposé la même question. Je suis parti sillonner la France et la Suisse à vélo avec mon ami Nathan Pratt, dans l'unique but d'explorer nos toilettes. Sur plus de 3500 km, nous sommes allés interroger des spécialistes du sujet avec pour seule question en tête, comment vont nos toilettes? C'est un sujet hyper tabou dans notre société et pourtant, je suis persuadé qu'il est la clé pour tendre vers un monde plus soutenable et plus juste. Tout comme les médecins du Moyen Âge, je vous invite donc à vous asseoir confortablement sur votre selle, attrapez le guidon de votre bicyclette pour soulever la lunette et explorer avec nous le fond de la cuvette. Je m'appelle Victor Ledoux et vous écoutez le podcast En Selle, un véritable voyage au cœur des toilettes.
En France, il y a eu des épidémies de choléra.
Finalement, ce qui fait la santé ou la maladie, c'est l'environnement dans lequel on baigne.
Si on ne peut pas se voir nu, on ne peut pas se laver.
C'est vraiment quand on a bien séparé l'approvisionnement en eau de l'assainissement.
En selle, épisode 4, le tub.
Le 19e siècle, l'âge d'or du recyclage des urines et matières fécales humaines. C'est ce que nous avons pu voir en long, en large et en travers dans l'épisode précédent. Mais après avoir longuement parlé des toilettes qui existaient à l'époque, j'aimerais désormais m'intéresser à la salle de bain, ou plutôt au cabinet de toilette. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. De quoi porter à confusion, me direz-vous. Mais en fait, pas du tout. On dit bien faire sa toilette. Aujourd'hui, nous dirions peut-être prendre sa douche, je vous l'accorde. Mais pendant longtemps, le mot toilette est associé à la notion d'hygiène. C'est ce que j'aimerais aborder dans ce 4e épisode. Qu'est-ce qui est sale et qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment ces notions de l'hygiène et du propre ont évolué à travers les âges? Nous mettons donc les eaux troubles de côté pour plonger dans des eaux plus transparentes, censées nous débarrasser de toutes les impuretés. Et cette douche, nous allons la prendre avec Monique Eleb, une historienne de l'architecture. Mais avant ça, une petite remise en contexte s'impose. En mai 2022, Nathan et moi laissons le Mont-Saint-Michel de côté pour traverser la contrée d'Orelsan et de Médine, la Normandie. Oui, je sais, j'aurais pu vous dire Guillaume le Conquérant, Gustave Flaubert, Pierre Corneille, ou encore Claude Monet, Renoir ou Pissarro. Mais bon, que voulez-vous, chacun sa culture. La Normandie nous fait rejoindre la Seine que nous suivons jusqu'à la capitale. Et là, horreur, c'est une vraie fourmilière. Il y a des gens partout. Un véritable enfer pour se déplacer à vélo. Certes, il y a de nombreuses infrastructures, mais malgré ça, il faut rester constamment concentré pour éviter l'accident. D'ailleurs, c'est là que je me suis fait insulter pour ne pas avoir laissé passer une voiture, alors même que c'est moi qui avais la priorité. Bref, quelle joie. Nous avons dans un premier temps slalomé entre les badauds, les taxis et les trottinettes électriques. Mais après quelques essais peu concluants, nous posons le pied à terre et décidons de faire appel au service de la célèbre RATP. Le bucolique voyage à vélo s'éloigne alors de nous. Nous sommes désormais de vrais citadins. Monique Eleb nous donne rendez-vous chez elle. C'est comme ça que nous nous retrouvons à sonner à son interphone. Bonjour, c'est Nathan et Victor du voyage à vélo En Selle. Nous venons pour l'interview. Quelques secondes après, la porte s'ouvre sur un immeuble chargé d'histoire. Nous sommes accueillis dans un grand appartement haussmannien, où le plafond est haut et où les craquements du parquet témoignent des années traversées. Là, au milieu des livres, nous retrouvons Monique. Elle a 76 ans au moment de notre rencontre. Elle est encore pleine d'énergie et semble ravie d'échanger avec nous. Malgré son grand âge, l'interview dure plus d'une heure. Aujourd'hui, Monique ne fait plus partie de ce monde. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris son décès en mai 2023, soit à peu près un an après notre rencontre. Les enregistrements que vous allez entendre représentent donc une de ses dernières apparitions dans un média. elle rend compte, comme elle a toujours su si bien le faire, de ses travaux de recherche sur l'habitat et sur l'évolution de nos modes de vie à travers les âges. Comme nous, sentez-vous donc honoré de pouvoir entendre son témoignage si précieux.
Avant le XVIe siècle, on allait se laver dans les bains-douches, dans ce qui est l'équivalent des bains publics, les étuves, enfin, il y avait plusieurs noms.
Monique Eleb, historienne de l'architecture.
Et en fait, les maladies vénériennes sont venues casser ce moment de grâce. Tout le monde allait dans les bains publics. Et peu à peu, on a commencé à penser que l'eau était dangereuse, puisqu'elle ouvrait les pores et que donc, en ouvrant les pores de la peau, elle permettait l'entrée des miasmes. Donc, peu à peu, on a cessé de se laver. On a cessé de se laver, mais pas seulement pour ça. On a commencé à cesser de se laver aussi après le Concile de Trente, c'est-à-dire la contre-réforme. C'est-à-dire quand on a rappelé aux catholiques qu'il était interdit de se voir nu. Donc si on ne peut pas se voir nu, on ne peut pas se laver, ou très mal. Donc on était habitué aux odeurs corporelles très fortes. Hein. On lavait très peu souvent son linge. Et qu'il y a eu une époque au XVIIe siècle où on pouvait dire... Regardez ma chemise qui était très blanche hier, aujourd'hui elle est noire, donc elle m'a lavé.
Ah, ce que ça fait du bien de se laver. Je suis dans les bains-douches, rue du Renard, dans le 4e arrondissement de Paris. Ces bains sont encore ouverts, bien qu'ils soient moins fréquentés qu'avant. Au 19e siècle, c'était un lieu incontournable de la vie parisienne. Les gens venaient s'y laver régulièrement. À cette époque, comme à celle des Romains, la toilette et l'hygiène avaient donc lieu dans l'espace public. Seuls les riches pouvaient installer des cabinets dans leur maison. Ce fut d'abord un espace aménagé dans la chambre. Puis cela s'est de plus en plus démocratisé avant de se généraliser avec l'arrivée de l'eau dans les maisons. C'est un véritable transfert de l'espace public vers l'espace privé qui s'est effectué. Bon, je vous laisse, je dois finir de me sécher.
Les cabinets de toilette, qui ne s'appelaient pas comme ça, qui s'appelaient garde-robe à l'époque, qui jouxtaient la chambre, en général de la femme. On ne sait pas où se lavaient les hommes, mais enfin, les femmes, il fallait qu'elles se lavent. Donc, il y avait l'idée qu'il fallait que ce soit une pièce très sombre, avec très peu de lumière, pour ne pas se voir nue. Au XVIIIe siècle, c'est comme ça que la salle de bain commence à pointer son nez. Et puis, bon, peu à peu, l'idée qu'on s'est trompé, et Jean-Jacques Rousseau y est pour beaucoup dans l'histoire, puisque dans ses écrits, le retour à la nature, c'est aussi le retour à un corps accepté, à un corps naturel. Après, il y a les découvertes scientifiques. Quand Pasteur dit que pour que l'eau soit propre, il faut la faire bouillir, ça change complètement.
Ah, le siècle des Lumières, on vous l'a bien rabâché au collège. Pourtant, quand on voit ça en quatrième, on a parfois du mal à se rendre compte de son importance. Mais ici, cela prend tout son sens. Du point de vue de l'hygiène, on comprend rapidement que ce mouvement de philosophie va développer une nouvelle vision du monde. Au sein de la communauté scientifique, cette période s'est traduite par l'augmentation des échanges, des débats et des interactions. Sans surprise, ça a conduit à de nouvelles découvertes et à l'affirmation de nombreux consensus scientifiques tels que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. En matière d'hygiène et d'assainissement, les grandes révolutions scientifiques ont lieu dans le domaine de la médecine et de la chimie. On pense par exemple aux découvertes de Pasteur, de Claude Bernard, mais aussi et surtout de Lavoisier. Vous avez déjà entendu ces noms-là, j'en suis sûr. Ne serait-ce parce qu'ils correspondent souvent à des noms de rues, de stations de métro ou d'instituts. Lavoisier est principalement connu pour cette phrase si célèbre. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »
Et peu à peu, on commence à avoir des petits cabinets de toilette minuscules avec de l'eau dans des brocs et des bassines. Et on fait une toute petite toilette de chat. Hein. Puis arrive quelque chose qui s'appelle le tub. Le tub, c'est très important parce que c'est une bassine plate qui arrive à la fin du 19e siècle et dans laquelle on se met debout avec une grosse éponge et on peut se laver comme ça.
Les industries Ansel ont ramené d'outre-Manche un ustensile à la pointe de la technologie. Conçu pour vous, le premier bain portatif à prix réduit, le tub. Un objet joli et pratique qui trouvera sa place dans vos cabinets.
Frotte-toi, savonne-toi.
Mais où ça? Mais où ça?
Frotte-toi, savonne-toi, dans le tub tu te toiletteras.
La fabrique Ansel, de la cuvette à votre assiette.
Le tub. Je suis sûr que vous voyez à quoi ça ressemble. Cette grande bassine apparaît régulièrement dans l'adaptation au cinéma du roman d'Émile Zola qui s'appelle Germinal. On y voit à plusieurs reprises Gérard Depardieu se laver dedans en rentrant d'une journée à la mine. Ses habitudes et ses normes d'hygiène commencent donc à se développer petit à petit et vont s'accentuer grâce à deux choses. L'arrivée de l'eau potable dans les maisons, mais aussi et surtout les découvertes scientifiques qui vont marquer cette période. Elles vont grandement faire évoluer le milieu de la médecine en nous permettant de comprendre les facteurs de transmission des maladies au sein de la population. C'est le passage de la théorie des miasmes à la théorie des germes.
Au XVIIIe siècle, la méfiance à l'égard de ces matières est devenue extrêmement importante parce que la médecine, qui s'intéresse d'ailleurs beaucoup à la ville à cette époque-là, est très marquée par ce qu'on appelle le néo-hippocratisme.
Sabine Barle, historienne de l'assainissement.
Se réfère aux théories d'Hippocrate et en particulier à son traité des eaux, des airs et des lieux qui dit que finalement ce qui fait la santé ou la maladie, c'est l'environnement dans lequel on baigne.
On ne vous la présente plus. Cette voix vous est désormais familière. Il s'agit de Sabine Barre. C'est l'historienne que nous avons rencontrée juste avant de partir en voyage. C'est notre fil rouge dans cette fabuleuse histoire des toilettes. Pour tout vous avouer, dans ce périple, c'est un peu comme si elle m'avait pris la main et m'avait emmené dans un long voyage qui dura près de 300 ans, quelque part entre le 18e et le 20e siècle.
Et donc les médecins sont persuadés que ce qui fait que les urbains meurent très jeunes et sont en très mauvaise santé, c'est parce que l'environnement urbain est particulièrement corrompu. Et cette corruption, ils l'attribuent essentiellement aux matières en putréfaction. Donc les matières en putréfaction, c'est toutes sortes de choses, parmi lesquelles les urines et les excréments. Donc ça, c'est une chose qui est clairement identifiée, même si le vecteur n'est pas forcément connu, même si on parle de miasme au lieu de parler de bactéries, de micro-organismes, etc. etc. Mais c'est tout à fait important dans la pensée médicale et dans la pensée hygiéniste.
La théorie des miasmes, c'est une théorie qui date d'il y a longtemps, mais qui était qui a beaucoup été mise en avant pour le choléra, justement, au 19e siècle.
Renaud Piaroux, épidémiologiste, spécialiste du choléra.
Quand le choléra est arrivé en Europe, il a touché préférentiellement la périphérie des grandes villes, les faubourgs où les conditions de vie étaient moins bonnes, le centre-ville, je sais pas moi, les beaux quartiers existaient déjà, il y avait puis des quartiers beaucoup moins, avec une densité de population plus grande, où les gens venaient travailler dans l'industrie qui était en train de se mettre en place en Angleterre, en France, ces quartiers sentaient mauvais, et c'est là que le choléra fait le plus de dégâts. Donc certains ont fait un lien entre la puanteur de l'air et le fait que les gens tombaient malades.
Renaud Piarot est un épidémiologiste mondialement connu. Je l'ai découvert au moment de la pandémie de Covid-19 lors de ses différentes apparitions dans les médias télévisés. Honnêtement, je ne me faisais pas trop d'illusions en lui proposant une interview. Nous étions alors en plein voyage à vélo, habillés en cuissard, la marque des lunettes de soleil imprimées sur nos visages et des barbes laissées à l'abandon. Je n'imaginais pas une seule seconde qu'un médecin aussi réputé que lui puisse accepter une entrevue avec deux cyclistes passionnés par les toilettes. C'est donc avec beaucoup d'appréhension que nous franchissons les portes de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Il nous accueille gentiment dans son bureau. Le service de parasitologie qu'il dirige aujourd'hui est chargé d'histoire puisqu'il est le premier laboratoire au monde à avoir réussi à isoler le virus du sida, le VIH. Au-delà de l'endroit où nous sommes, Renaud Piarot nous impressionne par sa grande carrure, sa prestance et sa voix grave assurée. C'est une belle voix pour un podcast, mais elle fait flipper lors d'une interview, je peux vous l'assurer. Nous n'en menions pas large, nous, tous les deux, les jeunes cyclistes avec leur petit micro. Petit à petit, je commence à comprendre pourquoi Renaud a accepté de nous recevoir. C'est un homme de terrain. Durant ses études, il s'est rapidement spécialisé sur les maladies tropicales. Tout au long de sa carrière, il s'est longuement engagé au sein de l'association Médecins du Monde. Bénévolement, sur ses congés, il intervient sur des situations d'urgence dans des pays en guerre ou en pleine pandémie. Au fil du temps, Renaud s'est spécialisé sur l'étude du choléra. Cette maladie qui semble disparue pour nous, les Occidentaux, mais qui persiste encore dans de nombreux pays. Le nom Renaud Piarot est devenu célèbre à partir de 2010, lorsqu'il a été mandaté par le gouvernement haïtien pour étudier la propagation du choléra dans le pays. Le rapport qu'il remet alors aux autorités donne pour responsable l'Organisation mondiale des Nations unies. L'ONU quoi, rien que ça. Pour comprendre le contexte et les enjeux de ce scandale sanitaire international, je vous laisserai écouter l'émission de France Culture qui s'intitule « Mécanique des épidémies ». Mais gardons cette histoire pour une prochaine fois, et plongeons plutôt dans l'Europe du 19e siècle. Le choléra est bel et bien présent, et le milieu médical a du mal à expliquer sa propagation.
C'est une théorie qui expliquait que le choléra soit plutôt à tel endroit plutôt qu'à tel autre endroit. Elle s'opposait à la théorie pasteurienne, mais qui est arrivée plus tard, la théorie des germes. Défendu par Pasteur et par Robert Koch en Allemagne. Cette théorie est venue supplanter la théorie des miasmes.
Avant le développement des appareils de mesure comme les microscopes, il était extrêmement difficile de comprendre pourquoi les gens tombaient malades. Ne pouvant avoir conscience du monde microscopique présent sous nos yeux, nous pensions que les maladies provenaient des miasmes. Des sortes de vapeurs ou de brouillards toxiques remplis de particules de matière décomposée. Avec cette théorie, les médecins de l'époque considéraient que les maladies pouvaient apparaître de manière spontanée au sein des matières en putréfaction. Personne ne parlait alors de microbes. On utilisait le mot miasme sans trop comprendre les mécanismes de contamination. Le principal indicateur était alors l'odeur. Dès que quelque chose puait, il fallait s'en méfier. Cette manière de voir la maladie a justifié en grande partie la transformation de l'espace urbain au cours de ce siècle. En disant cela, je pense notamment à la mise en place des poubelles en ville. Mais en 1865, Louis Pasteur vient renverser cette théorie des miasmes. Il découvre alors le rôle des microbes dans les processus de contamination et de fermentation. On comprend alors que la maladie provient de microbes qui se reproduisent dans l'environnement et dans nos corps humains. Certains microbes sont clairement identifiés comme la cause de certaines maladies, par exemple ceux de la variole et du choléra.
En France, il y a eu des épidémies de choléra. C'est pas que dans les pays africains ou en Asie qu'on a eu du choléra, mais ça commence au 19e siècle, au début du 19e siècle, une série d'extensions des épidémies de choléra qui jusqu'ici restaient plutôt autour du golfe du Bengale, l'Inde, le Bangladesh, qui se mettent à s'étendre parce qu'on voyage de plus en plus. La première extension qu'on va appeler une pandémie, c'est-à-dire une épidémie à une échelle intercontinentale, on va dire. Cette première extension ne va pas toucher la France, elle est vers 1817-1818, mais ça va jusqu'en Russie, commence à toucher un peu l'Europe. La deuxième, 1832, ça arrive en France et c'est la panique totale. Ça va dans les grandes villes essentiellement, parce qu'à ce moment-là, les égouts, l'apport en eau potable, tout ça se mélangeait plus ou moins. Et donc, il y a des épidémies extrêmement meurtrières à Paris, à Londres, à ce moment-là. Puis, il y a une troisième pandémie vers le milieu du 19e siècle, vers 1850. Puis encore une autre, en gros. Et puis, ça va faire comme ça six pandémies jusqu'au début du 20e siècle. Ça s'arrête à ce moment-là et ça ne reprend qu'en 1960 avec la septième pandémie. Et on est toujours dans la septième pandémie, sauf qu'elle a à peine effleuré l'Europe. C'est vraiment quand on a bien séparé l'approvisionnement en eau de l'assainissement. Parce qu'à un moment, on prenait l'eau dans la Seine, et on prend plutôt en amont qu'en aval des villes, mais en amont de Paris, on est quand même en aval d'autres villes, et donc ça permettait au choléra de se transmettre. Et pareil, à Londres, ça a été parfaitement démontré vers 1850, ou à propos d'une épidémie dans un quartier de Londres, à Soho, c'est une pompe, une bande fontaine en quelque sorte, qui était à l'origine de la contamination des gens du quartier. Et ça a été démontré par un épidémiologiste qui s'appelait Jon Snow, mais ce n'est pas celui de Game of Thrones, et qui a fait un excellent travail. Il a montré à partir d'une carte ce que pouvait être l'origine de cette épidémie, parce qu'il y avait plusieurs pompes dans le quartier, et c'était autour d'une pompe, celle de Broad Street. Autour de cette pompe, il y avait plein de gens qui mouraient. Ailleurs, non. Ça, on dit que c'est la première étude épidémiologique moderne.
Le néo-hippocratisme comme l'hygiénisme défendent l'idée selon laquelle il faut transformer l'espace urbain. Dans un premier temps, la question d'améliorer l'hygiène d'une part et d'améliorer la récupération des sous-produits urbains vont en quelque sorte de pair. C'est-à-dire que, surtout pour l'assainissement, en gros, l'objectif de l'assainissement pour notamment les ingénieurs, mais aussi les chimistes, les médecins, etc. du 19e siècle, c'est rendre la ville plus salubre et nourrir les urbains. C'est-à-dire que l'enjeu de salubrité et l'enjeu alimentaire sont complètement imbriqués. Et ça, c'est une chose qui a été probablement sous-estimée dans les travaux portant sur l'histoire urbaine et sur l'histoire de l'hygiénisme. Ce qu'il y a, c'est qu'on va voir qu'à un moment donné, ces points de vue vont pouvoir diverger parce que les médecins vont dénoncer le caractère insalubre d'un certain nombre de techniques associées à la valorisation et au recyclage. Et à la fin du 19e siècle, de toute façon, les enjeux vont complètement se séparer, puisque l'enjeu alimentaire ne va plus être associé à la question de l'assainissement. Et donc, ça va devenir deux questions complètement différentes.
La relation que nous entretenons avec notre corps est quelque chose de très personnel. Toutefois, elle est influencée par la société dans laquelle nous vivons. Les normes d'hygiène et de propreté définies pour nos corps, nos espaces publics et nos maisons ne sont que le résultat de choix collectifs, de modes et de tendances en constante évolution. À l'époque, les différents courants scientifiques, philosophiques et médicaux ont radicalement bouleversé le rapport des peuples européens à leur corps et à l'hygiène. Les pandémies successives qui ont eu lieu ont aussi marqué les esprits. Elles ont influencé le développement de règles d'hygiène plus strictes et transformé les modes de vie. À cette époque, on cherche alors à repousser les odeurs putrides vers l'extérieur des villes sans se soucier des impacts que cela peut avoir sur l'environnement. Mais en réalité, les épidémiologistes attribuent rapidement la propagation des maladies d'origine fécale comme le choléra à la contamination des eaux de consommation. Dès le début, nous avions donc pris conscience de la présence de certains microbes ou de miasmes dans l'eau potable. Ce n'est donc pas tant le développement du tout à l'égout qui a fait disparaître les maladies, comme le choléra. C'est plutôt la mise en place d'un traitement poussé sur l'eau arrivant à nos robinets qui a bloqué la propagation des maladies. C'est d'ailleurs, encore aujourd'hui, la première chose que réalisent les ONG qui interviennent sur des situations d'urgence. Par exemple, dans un camp constitué de milliers de réfugiés, où le choléra se propage à une vitesse folle, la première chose à faire est d'amener de l'eau potable et de la traiter pour éviter que les populations se contaminent entre elles avec les eaux de boisson ou de cuisine. Et dans un second temps seulement, on met en place un hôpital pour soigner les malades et on construit des toilettes. Ce constat explique très bien pourquoi la mise en place du tout à l'égout a fait l'objet de grands débats au sein de la communauté scientifique de l'époque. L'argument selon lequel il s'agissait de la solution miracle face à la maladie ne fut pas le plus fort face aux besoins croissants d'engrais pour l'agriculture. C'est ce que nous révélera le prochain épisode de cette fabuleuse histoire. Merci à nos trois intervenants que sont Monique Eleb, Sabine Barl et Renaud Piarou. Vous les retrouverez très certainement dans la suite de cette aventure.
Cet épisode a été produit par l'association Circulus et réalisé par Victor Ledoux. Les interviews ont été effectuées par Nathan Prat et Victor Ledoux, la bande-son par Florian Berger, l'habillage sonore et les bruitages par Caroline Rigouin, l'assemblage et le mixage par Plex et les infographies par Jérémy Mass. Les enregistrements que vous venez d'entendre sont issus de l'aventure Ancel. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez-nous sur ancel.fr. Ce podcast a reçu le soutien financier de l'Agence de l'eau Adour-Garonne dans le cadre de son appel à projet Éduque-Eau et celui de la Fondation de France pour son concours Déclic Jeune. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et notamment aux bénévoles ayant contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce programme.
Allô, vous m'entendez ? Bon, ça répond toujours pas. Un petit message.
Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie Ancel. L'équipe de production n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message. Nous vous rappellerons dès que possible.
Bonjour, c'est Dr Poupe à l'appareil. Dis donc, j'ai bien l'impression que vous reconnaissez mon numéro de téléphone maintenant. Je tombe à chaque fois sur le répondeur. Ça en devient blessant à force. Bon, pour ce quatrième opus, il y a du boulot. Plein de petites confusions se sont glissées dans vos explications. On croirait presque que vous avez fait exprès pour que je reste concentré tout le long de l'épisode. C'est malin. Alors, un peu d'étymologie pour commencer. L'expression « faire sa toilette » que vous citez n'apparaît en réalité qu'à partir du 19e siècle. À cette époque, le cabinet de toilette correspond à l'endroit où l'on se lave. Dire « les cabinets » ou « les toilettes » pour désigner l'endroit où l'on fait ses besoins est finalement très récent. Ces expressions sont passées dans le langage courant qu'à partir du 20e siècle seulement. Tant que je parle de date, j'en profite pour clarifier la période dans laquelle on est. Il est souvent question du siècle des Lumières dans cet épisode, mais il faut savoir que le siècle des Lumières correspond au 18e siècle, et qu'en revanche, quand vous citez Pasteur et Claude Bernard, on est déjà dans le 19e. Mis à part quand vous parlez de Rousseau, l'intégralité des propos de ce numéro se situe finalement au 19e siècle. C'est d'autant plus vrai quand vous parlez de la propagation des maladies via la contamination d'eau potable découverte par les médecins et les scientifiques au 19e. Bon, il se fait tard, je vais vous laisser. Un conseil, soyez vigilants pour le prochain épisode, ou sinon vous aurez encore affaire à moi. Voilà, bisous.